Ça vous dirait d'être entrepreneur? Retrouvez-nous tous les mois dans cette chronique réalisée en partenariat avec Initiative Ariège. Sur Radio Galaxie, la radio du Sud Toulousain. Et un podcast sur radiogalaxie31.com.
Bonjour à tous et bienvenue à cette 8e émission Devenir entrepreneur en compagnie de Initiative Ariège. Loïc, bonjour.
Bonjour Bruno.
Alors dis-moi Loïc, aujourd'hui tu n'es pas venu tout seul, tu es venu accompagné de plein de personnes. De qui s'agit-il?
Allez, je vais les laisser se présenter. On va commencer par Annick Chanot qui est chef d'entreprise.
Bonjour, donc je suis co-gérante des ateliers Rénova d'Omazan. C'est une société qui transforme fruits et légumes pour des producteurs.
Je vais proposer à Michel de se présenter maintenant.
Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Michel Fauré. Je suis restaurateur à Varilhes dans l'Ariège.
Et enfin, donc Eric.
Bonjour, donc je suis Eric Lozano. Je travaille à Initiative Ariège où je suis chargé de mission et je travaille avec Loïc.
Oui, parce que Loïc, aujourd'hui, on va parler d'une émission un petit peu spéciale. Comme tu me faisais remarquer en préparant l'émission, c'est la dernière de la saison de cette chronique Devenir entrepreneur. On en aura d'autres par la suite. C'est-à-dire qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu peux nous résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant?
Dans les émissions précédentes, on s'est attaché beaucoup aux aspects de préparation d'un projet. On était, contrairement à aujourd'hui, dans la phase théorique. Donc la phase théorique, elle démarrait par les premières démarches qu'entame une personne désireuse de découvrir l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'elle s'est interrogée auprès de sa famille, auprès de ses amis sur le bien fondé de son idée. Ensuite, on avait vu en émission numéro 2 le principe d'aller confronter son idée avec des organismes professionnels dédiés à l'accompagnement des entrepreneurs, dont c'est le métier, pour l'emploi, les chambres consulaires, Initiative Ariège et bien d'autres. Nous avions poussé un peu plus le détail ensuite dans la troisième émission sur le volet études de marché. Qu'est-ce que c'est qu'étudier son marché? Comment on définit les phases importantes d'une future entreprise? C'est-à-dire quels vont être ses produits, ses services, à quel prix? Comment l'entrepreneur va communiquer? Comment il va distribuer? De tous ces éléments qui nous permettent d'envisager la concrétisation prochaine d'un projet quand on est porteur de ce souhait d'entreprendre.
Définir son offre et son marché, en fait.
Complètement. Sur l'émission numéro 5, on était parti là sur le principe de chiffrer justement son futur projet, puisque chiffrer, on appelle ça vulgairement un prévisionnel, ça permet d'une part de se donner des repères, c'est-à-dire à quel volume d'activité je vais pouvoir durer dans le temps, être rentable, être viable, et ça permet aussi de pouvoir, et ça c'était l'objet de l'émission numéro 6, aller visiter des financeurs potentiels, notamment des établissements bancaires. Donc ce prévisionnel, il sert aussi à être crédible vis-à-vis de tierces personnes et de pouvoir mobiliser quand il le faut des financements. Et enfin, donc, lors de la dernière émission, là on était passé dans le côté pratique, on s'était intéressé au parcours d'un jeune entrepreneur qui nous racontait donc le démarrage de sa société et ses premiers résultats depuis un an. Donc là on était passé dans la phase concrète. Aujourd'hui, tu vas nous l'introduire Bruno, mais on va aller plus loin, parce que là, on a la chance aujourd'hui d'avoir trois personnes expérimentées dans l'entrepreneuriat, donc des personnes qui ont beaucoup d'expérience sur le sujet, et on va pouvoir raconter aux auditeurs ce qu'est et comment est une vie d'entrepreneur.
C'est ça, l'idée surtout maintenant, c'est de faire du témoignage, on va dire, de gens qui ont passé ce cap de la création d'entreprise, pour certains qui ont même eu plusieurs entreprises, comme on va le voir très prochainement, et qui ont eu plusieurs vies, parce que la vie d'entrepreneur, c'est plusieurs vies en même temps, quelque part. Et donc, on va commencer par Michel Fauré, justement. Michel, rebonjour.
Salut Renaud, bonjour.
Bonjour, donc vous êtes restaurateur. Est-ce que vous avez toujours été restaurateur?
Absolument pas. Disons que la fibre du restaurant m'est arrivée par l'intermédiaire de ma grand-mère, qui était cuisinière et qui m'a fait aimer la cuisine. Et qui, ma mère, après, a continué à me faire aimer, disons, la cuisine. Mon premier métier, c'est la SNCF.
Oui, donc la SNCF, et vous étiez, vous faisiez pas la cuisine à la SNCF?
Non, si on peut appeler ça, j'étais forgeron, mais quand même, je faisais la cuisine quand même.
Donc, ce qui veut dire qu'à la base, vous n'avez pas une formation de cuisinier, si ce n'est sur le terrain, sur le tas?
Voilà. J'ai 7 diplômes dans la ferraille, si je peux appeler ça comme ça. Je suis un autodidacte.
Un autodidacte. Et en étant autodidacte, on peut créer une entreprise et monter son restaurant. Ça, c'est extraordinaire.
Alors, on peut, oui, mais si on est bien accompagné.
Alors, racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé.
Moi, j'ai eu la chance de connaître un monsieur qui s'appelle Louis Cristot, qui est à côté de moi, que tu connais très bien. Et disons qu'avec lui et l'accompagnement d'Ariège Initiative et de la CCI de l'Ariège, j'ai pu rebondir, sur plusieurs, projets.
Rebondir parce que
ben, disons que le projet, quand j'ai quitté le chemin de fer, j'ai monté un restaurant qui était le plus vieux restaurant du Midi-Pyrénées. Il datait du 15e siècle.
Qui se situait où ?
À Varilhes. Ça s'appelait l'Auberge Marinette. C'était un restaurant qui possédait une rôtisserie mécanique du 15e siècle et qui fonctionnait très très bien. Et du jour au lendemain, j'ai voulu arrêter de faire cette forme de cuisine et faire des fois une forme de cuisine beaucoup plus moderne, c'est-à-dire de la cuisine un peu plus raffinée.
Type gastronomique ?
Absolument.
Devenir un grand restaurant avec des étoiles ?
Je les avais, mais dans les yeux, les étoiles. Mais sinon, oui, j'ai été référencé au Michelin, j'ai été référencé dans plusieurs guides, mais ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner.
À votre avis, dans cette première analyse, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché ?
Mais disons que la population ariégeoise n'est pas assez nombreuse pour pouvoir faire ce genre de restauration. Et puis, comme il y a très longtemps de ça, elle n'était pas adaptée encore à cette gastronomie.
Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la préparation, vous aviez plus d'ambition que la réalité ?
Oui. Et donc, comme on dit vulgairement, j'avais les yeux plus gros que le ventre, voilà.
Je comprends. Et donc, d'où l'intérêt ensuite d'un rebond, c'est-à-dire d'être accompagné par d'autres personnes qui vous remettent, alors, puisqu'on est dans les choses un peu plus triviales, remettre les pieds sur terre.
Absolument, voilà.
De quelle façon on vous a remis les pieds sur terre, encore une fois, entre guillemets, pour vous dire, attention, là maintenant, il faut vous poser, faites attention à votre prévisionnel, à votre ambition, comment ça s'est passé ?
Disons, ce qui m'a fait calculer dès le départ, c'est quand j'ai arrêté, ça a été une liquidation judiciaire. Donc là, ça fait réfléchir. Et après, c'est en connaissant des gens comme Loïc qui m'ont aidé au niveau intellectuel pour essayer de se remettre, disons, dans le droit chemin pour être un petit peu plus calme, un petit peu plus posé, essayer de réfléchir surtout.
Ça veut donc dire, c'est intéressant, ce qui veut donc dire qu'on peut se casser la figure une première fois, mais ça n'empêche pas qu'on peut repartir sur autre chose.
Mais la preuve.
Et donc aujourd'hui, vous faites quoi ?
Et je suis toujours restaurateur. J'ai toujours un restaurant. Après, disons que j'ai malheureusement arrêté. J'ai été, disons, chef de cuisine consultant. J'ai monté même un restaurant pendant 3 ans au Maroc. Et puis, je suis revenu. Je ne voulais pas revenir. Mais l'esprit familial a fait que je suis revenu. Et après, j'ai rencontré Loïc et j'ai voulu faire autre chose.
Et vous en êtes où aujourd'hui ?
Pour le moment, aujourd'hui, tout se passe bien.
Donc vous avez un restaurant toujours à Varilhes ?
Toujours.
Qui s'appelle ?
Le Saint-Michel.
Le Saint-Michel.
J'ai pas fait exprès. Il existe depuis plusieurs années et quand je l'ai pris, on m'a demandé est-ce que je voulais le changer, ben j'ai dit non.
Je m'appelle Michel, autant la garder le Saint-Michel.
Autant que je le garde.
Justement, quelle est la différence de vision, de fonctionnement que vous avez aujourd'hui entre le restaurant que vous aviez il y a une quinzaine d'années et ce que vous faites aujourd'hui ?
C'est toujours cette clientèle, quand j'avais ce restaurant que j'avais fait gastro, si on peut appeler ça comme ça, elle est revenue me voir comment je travaillais, disons beaucoup plus simple, avec des produits du terroir, par exemple avec de la viande de l'Ariège, des frites fraîches, quelque chose de beaucoup plus simple. Mais il y a certaines personnes qui viennent me voir et me disent « Tu peux nous faire autre chose ?» Et puis ça, c'est un plaisir. On y retombe de suite dans le système, on le fait. Mais on reste à sa place maintenant.
Et du point de vue gestion, votre vision est différente ?
Ah, c'est obligé. Quand on était dans un système un petit peu plus évolutif dans la cuisine, il y a beaucoup de dépenses. Et ces dépenses-là, maintenant, on essaye de les faire, mais à moindre coût. Et elles sont c'est moins regardant maintenant que quand on veut faire du gastro.
Ouais, c'est ça. On rationalise un peu plus les choses, voilà. On réutilise les choses différemment en fait que lorsqu'on fait de la gastronomie, quoi.
Voilà.
Et si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui voudraient, ou des moins jeunes, parce que vous, votre conversion s'est faite à 47 ans, je crois.
Non, un peu plus tard. Moi, ça fait 8 ans. Je vais faire 66 ans. Ça fait 8 ans que j'ai tout recommencé à zéro.
D'accord. Et donc, quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui voudrait se lancer là-dedans dans la cuisine ?
Avant, disons, de pouvoir dire que de se lancer dans la cuisine, c'est dans l'entreprise. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Sans parler de, au niveau commercial de les fournisseurs, c'est le départ. D'avoir des gens comme j'ai eu avec Ariège Initiative, avec la CCI, qui m'ont donné plein de conseils. Parce qu'au départ, on croit tout savoir, mais on ne sait rien.
Surtout à un certain âge, on pense qu'on a déjà vécu beaucoup de choses et on est capable d'eux, en fait.
Ouais, je pense très souvent à une chanson de Jean Gabin qui dit « Je sais ».
On l'entend des fois sur cette radio.
Voilà, et à la fin, on sait qu'on ne sait jamais assez.
Michel Fauré, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le gérant et l'entrepreneur du restaurant Le Saint-Michel, le nom qui est bien porté, donc à Vary, c'est ça ?
Oui, Vary, exact.
Et on peut vous retrouver là-bas sur place directement. Vous êtes dans des guides encore aujourd'hui ou pas ?
Je ne m'en préoccupe plus.
C'est là, encore une fois, c'est la vision a changé du travail, en fait.
Ben voilà. Avant même, je peux... Bon, Loïc, lui, il le savait. J'ai même fait de la radio. Et maintenant, je m'occupe de moi. Je m'occupe de mon établissement. J'essaye, disons, d'être plus raisonnable.
Merci de ce témoignage qui certainement touchera beaucoup de nos auditeurs. Michel, merci beaucoup et à très bientôt. Puis revenez sur Radio Galaxie si vous voulez faire encore de la radio.
Mais pourquoi pas, Renaud ?
Avec plaisir. Oui Loïc, donc on vient d'avoir le témoignage de Michel Fauré là, qui nous montre bien qu'on peut donc rebondir sur plusieurs activités et lorsqu'on se remet en question, lorsqu'on est bien accompagné en plus, on est capable de continuer son projet de vie en fait.
Michel, il a expérimenté effectivement une première entreprise, il a eu des hauts aussi, hein, il a eu des satisfactions puisqu'elle a duré un certain temps, mais il a eu la réflexion et... De remettre en question un petit peu tout le modèle qu'il avait construit. Il a expliqué les raisons, hein. C'était pas le bon endroit, le bon moment pour lui d'aller sur une recherche gastronomique. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est le plus important, ben, il paraît épanoui là où il est, dans son nouveau restaurant.
Et ça se voit, oui.
Et les clients ont du plaisir à venir le voir régulièrement. Il a un modèle économique qu'il a mis en place, il a une vision. Donc oui, le message aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour remettre en question un petit peu le modèle de son entreprise. Pour surtout pouvoir être satisfait du rendu au quotidien.
Maintenant que son restaurant fonctionne correctement, vous êtes toujours en relation avec lui ? Vous suivez toujours un peu son parcours ?
On est sur un territoire où la proximité, comme dans beaucoup de territoires dans nos coins, est forte. Donc on a l'occasion de toute façon de se voir, que ce soit sur des animations qui portent sur l'entrepreneuriat, parce que c'est quelqu'un qui est sensible à ça. Il fait partie d'organisations professionnelles, il fait partie donc d'associations. Michel, c'est quelqu'un d'assez dynamique. Donc on se croise dans ce cadre professionnel, on se voit aussi parce que j'ai plaisir à lui rendre visite ponctuellement. Là maintenant ça fait 7 ans qu'il avait bénéficié des services d'Initiative Ariège, donc on n'a plus de lien, je dirais, lié à un prêt d'honneur ou au suivi post-création. Mais voilà, il y a des entrepreneurs qui nous marquent, nous, dans nos métiers. On accompagne une centaine d'entrepreneurs par an. Et il y en a certains qui ont plaisir à s'entourer toujours, on le sent. Donc Michel, il est toujours ouvert, il est toujours disponible. Donc oui, ça fait partie des personnes qu'on a plaisir à côtoyer.
Donc on a vu un entrepreneur bon, sur une entité unipersonnelle, on va dire, quelqu'un qui crée sa boîte. Maintenant, on va passer sur un autre sujet, mais avec plutôt un côté société. Société en plus, qui à la base vient du monde associatif et est obligé de créer une société pour répondre à un besoin. Et c'est en ce sens que nous sommes ici en studio avec Annick Chano. Et donc, vous, en fait, vous êtes dans les ateliers Rénova, qui sont situés à Domazan, et qui permettent aux gens de pouvoir transformer leurs fruits et légumes, c'est ça ?
C'est exact, oui, oui.
Alors, juste très, très brièvement, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé depuis très longtemps ? Ça fait combien de temps que ça existe ? 25 ans, Rénova, c'est ça ?
Alors, Rénova existe depuis 25 ans. Au départ, c'est une association, donc la Fédération Rénova, qui a décidé de valoriser le patrimoine fruitier local en rénovant d'anciens vergers et en plantant des vergers, en assurant une formation de futurs producteurs et en les aidant donc à s'installer dans le domaine agricole. Et ça a nécessité le besoin de systèmes de transformation. Donc, plusieurs producteurs se sont mutualisés pour créer les ateliers Rénova. Donc, ça, c'est il y a une quinzaine d'années. Donc, on fait l'achat de machines, souvent un peu d'occasion, et qui permettaient de, par exemple, de faire du jus de pomme, de la crème de châtaigne, ou tout ce qui est végétal, des soupes, des pestos.
C'est ça, l'idée de départ, en fait, c'était plutôt une idée patrimoniale, en disant on va recréer des vergers, on va refaire de la culture de fruits de région. Ensuite, les gens ont eu leurs fruits, il a fallu les transformer.
Voilà, alors les deux idées sont toujours en parallèle, c'est-à-dire que la Fédération Rénova existe toujours et continue son travail sur le patrimoine fruitier local, en particulier la châtaigne, mais l'activité ne s'est pas arrêtée. Mais comme plusieurs producteurs ont été installés, il y a de plus en plus de demandes de transformation. Effectivement, une fois que les vergers donnent, il faut faire quelque chose, des fruits ou éventuellement des légumes quand c'est des maraîchers.
Et là, en plus, on voit aussi qu'il y a une diversification des activités parce qu'il y a des formations qui sont faites, il y a des accompagnements
faits. C'est ça, il y a des formations de personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Et ensuite, ils sont suivis...
Agriculture fruitière, hein ?
Fruitière ou maraîchère. Les formations sont assez variées. C'est formation à la greffe, il y a l'apiculture, donc la transformation de légumes, la transformation de fruits. Bon, c'est uniquement végétal.
Et vous êtes sociétaire donc de cette société collective à intérêt collectif, c'est ça ?
Alors, les ateliers Rénova, c'est une SCIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui est géré par 3 personnes, donc nous sommes 3 co-gérants bénévoles et nous avons 2 employés à temps plein et un besoin d'employés saisonniers puisqu'on a quand même une très forte saison, on va dire du mois d'août au mois de décembre, le moment où arrivent pommes et châtaignes, ce qui constitue quand même notre activité principale.
Alors, ce qui veut donc dire que dans votre organisation de travail, dans votre organisation financière, il faut gérer ces afflux momentanés de produits et le reste de l'année, conserver les emplois avec une activité.
Voilà, alors c'est effectivement très lourd au moment de la saison, parce que là, le temps plein, il faudrait qu'il soit de 80 heures par semaine. Et après, en dehors, on a quand même de la demande. Il y a les soupes, pesto, pâtés végétaux. Enfin bon, on a de la transformation toute l'année. Mais on aurait pour volonté justement de développer un peu plus d'annualiser. De ne pas garder cette très grosse saison à l'automne. Puis ça ronronne un peu plus le reste de l'année. Donc on aurait aussi comme souhait, c'est dans les projets, de monter un magasin permanent pour vendre ce que produisent nos producteurs. Mais bon, pour tout ça, il faut du salarié, il faut des personnes qui s'en occupent.
Oui, ce qui veut donc dire, en fait, d'où l'intérêt de qu'on puisse échanger aujourd'hui et avoir votre témoignage, c'est parce qu'entre l'idée de départ et ce qui arrive aujourd'hui, à un moment donné, il y a des remises en question. Il faut se poser des questions pour dire, voilà, j'en suis là aujourd'hui, on a fait les formations, il y a des gens qui nous apportent des produits, on est capable de produire, de transformer leurs produits, mais arrive un moment où j'ai plus de produits que de moyens de transformer.
Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on avait, comme je disais tout à l'heure, on avait investi dans du matériel, bon, comme on a pu, enfin on a toujours eu l'aide d'Initiative Ariège de la région, on s'est toujours appuyé sur des gens compétents, et ça depuis le début, on avait donc du matériel vétuste qui répondait à peu près à la demande au début, ça a répondu pendant quelques années. Et ayant de plus en plus de produits, de plus en plus de producteurs intéressés, alors j'en profite pour glisser qu'on est aussi ouvert aux particuliers d'ailleurs. Quelqu'un qui aurait 50 kilos de pommes dans son jardin peut très bien venir transformer son jus de pomme. Pareil pour les châtaignes. Bon,
pareil en prestation de service cette
voilà,
fois-ci.
Voilà, c'est cela. Donc on a effectivement de plus en plus de demandes. Et soit on continuait, si je puis dire, à ronronner, soit il fallait qu'on se modernise et qu'on s'agrandisse pour répondre à la nouvelle demande.
Alors, vous êtes sociétaire de cette donc, société coopérative.
Oui.
Vous êtes chef d'entreprise, gestionnaire, être capable de gérer comme ça 3 salariés, une chaîne de production, comment vous avez fait ?
Oh, on se débrouille, on se fait aider, on prend des conseils, on se donne pas mal quand même. Je n'ai pas fait d'études de gestion, si c'est là la question du tout.
C'est-à-dire, même pour être entrepreneur, je dirais, à un moment donné, en étant à plusieurs, en étant bien accompagné, voilà, on est capable de pouvoir gérer une entreprise de plusieurs salariés et d'avoir des chaînes de production.
Oui. Il faut un peu d'huile de coude ou d'huile de cerveau, et puis on y arrive, effectivement.
Donc aujourd'hui, il nous a fallu un certain temps de réflexion, je dirais, pour prendre ces décisions. Et dans quelle mesure le fait d'être accompagné ou par la chambre de commerce, je ne sais pas, ou par Initiative Ariège ou par des banquiers, vous a permis d'apporter de l'eau au moulin de votre réflexion?
Mais c'est-à-dire qu'on a décidé, bon, on a réfléchi un petit moment parce qu'on est plusieurs quand même sur cette cogérance, et puis on a choisi de franchir le pas, et donc on a déposé des dossiers qui ont été aidés, subventionnés, donc comme je disais, par la région Initiative Ariège, et on a modernisé, enfin on a changé les machines. On en a acheté d'autres, on a agrandi les locaux et ça nous permet de répondre à une demande beaucoup plus importante. Donc par exemple, l'ancienne chaîne jus, on arrivait à transformer péniblement 1,5 tonne par jour de pommes. Là, on est passé à 3 tonnes et quelques.
Si vous n'aviez pas fait ces changements, ça aurait donné quoi?
Et ça aurait donné qu'on ne pouvait pas répondre à la demande, donc il fallait refuser les gens. Les gens téléphonent à peu près tous à la même période, j'ai tant de kilos de pommes, on peut ou on ne peut pas, donc si on ne peut pas, ils vont ailleurs.
Alors, mais ça veut donc dire que c'est aussi un choix de gestion d'entreprise. À un moment donné, vous dire, ok, j'accepte plus de clients, j'accepte de grandir, ça veut donc dire éventuellement embaucher plus de personnes, donc coûts supplémentaires, comment vous gérez ça en interne?
Ah, c'est justement le problème. On y va petit à petit parce que pour le moment, on est dans la phase investissement. Qui dit investissement dit qu'il y a quand même une partie crédit à rembourser. Donc, il va falloir un peu jongler. On va le faire petit à petit.
Il y a un côté un peu tendance, entre guillemets, de se mettre en collectif. Vous qui vivez donc cette gestion collective d'une entreprise, ça vous apporte quoi plutôt qu'être simple entrepreneur?
Ah, c'est un côté très très intéressant. Bon, à plusieurs, on est plus fort, je pourrais dire. Ça peut apporter quand même des complications si on n'a pas exactement la même vision du problème. Il ne faut pas que les uns tirent à droite, les autres à gauche. Mais c'est très très intéressant.
Sur le plan personnel cette fois-ci, parce que vous me disiez tout à l'heure, vous n'étiez pas gestionnaire, n'avez pas fait d'études de gestion. Ça vous a apporté quoi le fait de gérer une entreprise?
C'est très intéressant, mais en fait, ça a toujours été un peu mon rêve. D'avoir ma propre entreprise. J'ai été salariée pendant de longues années, donc je trouve que c'est bien de s'impliquer davantage.
Loïc, toi, quand tu vois quelque chose comme Renova avec ses modifications, ses choix d'orientation et ses choix politiques, en fait, c'est un choix politique de vie d'entreprise, comment tu perçois ça, toi, de l'extérieur? Qu'est-ce que Initiative Ariège a pu apporter à ça?
Initiative Ariège, on a été présent dans la réflexion et aussi parce qu'on a des outils de financement, hein, donc c'est important de pouvoir être en capacité d'avoir le choix d'investir ou pas. Pour avoir le choix d'investir ou pas, il faut aussi parfois mobiliser des partenaires financeurs, on en fait partie, les établissements bancaires en font partie. Donc on a eu cette utilité de donner le choix, mais après, justement, ces options, elles ont été prises par eux-mêmes. Hein. Ils se sont donc entourés de la Chambre de commerce et d'industrie, des services de la région, de nous-mêmes en tant que financeurs, mais il faut leur rendre leur capacité d'énergie. Donc ce que je retiens surtout, c'est qu'on a affaire à 3 gérants qui sont énergiques, qui sont motivés et qui surtout apprécient tout ça. Je crois que c'est le moteur, c'est qu'ils avaient envie de développer le modèle parce qu'ils se sentent utiles pour le territoire, pour les producteurs. Et on voit bien qu'il y a une dynamique vertueuse et qui est dans l'air du temps avec notamment le consommer local.
C'est ça, parce que Annick, pour pouvoir supporter la charge de travail en étant bénévole, ce que vous me disiez, il faut croire en son projet en fait.
Ah oui, là, absolument, il y a un caractère éthique qui est très fort là-dedans. Je pense que, comme a dit Loïc, c'est pour l'avenir, pour nos enfants, c'est dans cette voie, enfin, dans cette direction qu'il faut aller, à mon avis complètement.
Et c'est pour ça maintenant que je vais me tourner vers Eric. Eric Lozano, bonjour.
Rebonjour Bruno.
Rebonjour. Donc, parce que vous êtes avec Initiative Ariège, vous êtes consultant pour Initiative Ariège, c'est ça?
Voilà, je suis chargé de mission à Initiative Ariège, donc j'accompagne les créateurs repreneurs d'entreprises ou les entrepreneurs déjà installés qui ont un besoin de développement en amont de leur projet pour arriver à budgétiser tout ça, trouver les différents leviers à mobiliser, la partie financement d'Initiative Ariège, mais aussi voir au niveau bancaire, et la partie suivi une fois le projet lancé sur les trois premières années d'activité, qui sont des années assez cruciales pour le chef d'entreprise.
Pour faire très brièvement, vous, votre champ d'expertise, c'est quoi ?
Alors, sur la partie financière, on essaye de sensibiliser aussi les chefs d'entreprise sur l'approvisionnement au niveau des fournisseurs, sur leur modèle économique, trouver la clientèle. Aussi, voilà, des points sur lesquels il faut être vigilant. Je pense que s'il y a un mot à retenir, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes, des partenaires, l'expert comptable, les banquiers, les chambres consulaires, on a parlé de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métier aussi, de la chambre d'agriculture. C'est important pour le chef d'entreprise qui souvent est seul de pouvoir sortir un petit peu de son activité du quotidien, savoir se remettre en question, poser les questions aux bonnes personnes, prendre des avis différents et au final trancher et prendre sa propre décision tant qu'il est encore temps et tant que c'est plus facile de le faire. Plus cette réflexion est menée en amont, et plus c'est facile pour le chef d'entreprise d'éventuellement changer de cap. On en parlait tout à l'heure avec Michel, mais aussi avec Annick, de dire bon, la chaîne à jus arrive au maximum de ses capacités, qu'est-ce qu'on fait ? Mm-hmm. Est-ce qu'on limite, on limite à 1,5 tonne par jour, ou est-ce qu'on croit dans le projet, on veut développer, on veut ouvrir les ateliers à davantage de personnes, et on investit, tout en gardant à l'esprit les valeurs des ateliers Rénova. Voilà, c'est aussi trouver cet équilibre entre ses propres valeurs, sa vie perso et ce qu'on veut faire avec son entreprise, ce qu'on veut qu'elle soit.
Sans se travestir, sans se trahir.
Exactement, voilà.
Et par rapport à votre expérience justement, le fait de faire ou de ne pas faire ses bons choix au bon moment, ça produit quoi ? C'est-à-dire que l'écueil est vite arrivé en fait.
Voilà, l'écueil peut très vite arriver, effectivement, Bruno. Plus cette réflexion est menée en amont, et plus c'est facile, et on peut faire cette transition dans de meilleures conditions, plutôt que de le faire en catastrophe, parce que dans le cas d'Annick, par exemple, la chaîne à jus aurait pu lâcher du jour au lendemain, en pleine période de production. Pas de possibilité d'honorer les commandes des producteurs, et les ateliers Rénova auraient pu, malheureusement, subir une situation compliquée. Plus on anticipe, il y a vraiment l'anticipation du chef d'entreprise qui est moteur et qui est essentiel dans ce choix de réaliser les investissements au bon moment.
Oui, parce que une des difficultés du chef d'entreprise qui se retrouve seul souvent, c'est de, un, dire je vais travailler deux fois plus pour essayer de résoudre mon problème, ce qui n'est pas forcément la solution, parce qu'on s'épuise. Et la deuxième, c'est de dire, bon, c'est moi qui connais le problème, c'est moi qui connais la solution.
Tout à fait, Bruno. Tu as bien employé le terme d'épuisement, c'est-à-dire que le chef d'entreprise va se dire, ben voilà, je vais travailler plus tard le soir, je vais y rester. Bon, il peut y travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais ça fait du bien, voilà, de prendre un petit peu de recul, de se poser pendant une heure ou deux avec ses partenaires et de dire, bon, voilà, je rencontre une difficulté, il n'y a pas de honte à ça. Comment est-ce que je peux faire ? Quelles sont les possibilités ? Parce que le chef d'entreprise, il est la tête dans le guidon au quotidien, dans son activité. Il ne va pas forcément, on va dire, prendre le recul nécessaire. Et venant de l'extérieur, le fait ne serait-ce que d'en parler, l'idée peut commencer à germer dans l'esprit du chef d'entreprise pour trouver la solution ou la clé qui lui manquait.
Oui, mais le chef d'entreprise qui est déjà à court d'argent et qui se dit, bon attends, si je vais encore payer des consultants à côté, je vais encore gréver mon budget, pour apporter quoi ?
Alors voilà, par rapport à ça, ben effectivement, il y a les chambres consulaires dont dépendent les chefs d'entreprise. Il y a également le banquier, l'expert comptable qui sont là au-delà du service du quotidien, mais qui sont là aussi pour une partie de conseil. Et Initiative Ariège, on se tient aussi à disposition des chefs d'entreprise, aussi bien sur la phase de création qu'une fois installé pour un besoin de développement. On peut servir également aussi un peu de diagnostic.
Parce que là, justement, je reviens à Véronique, ce qu'il vous fallait, vous, c'était un accompagnement pour votre développement cette fois-ci.
Oui, tout à fait. Mm-hmm.
Aussi bien pour l'acquisition, donc de trouver les fonds pour acquérir une nouvelle machine, que pour peut-être une organisation de votre travail.
Voilà, alors justement, notre faiblesse, effectivement, est un peu au niveau de la gestion purement financière. Parce que nous avons... À Rénova, des gens qui savent planter, qui savent greffer, qui savent étudier toutes les qualités de fruits. Bon, c'est une certaine forme de compétence, mais ça ne suffit pas. Donc, on a été appuyé par... faut s'appuyer sur des banquiers, des experts comptables, des gestionnaires. Enfin, il faut prendre conseil, sinon on ne s'en sort pas.
Loïc, toi, avec ce regard global que tu as sur l'ensemble des structures qui se sont montées en Ariège, on est, comme on disait tout à l'heure, à la 8e émission, on est en train de clôturer un peu cette saison devenir entrepreneur. On a parlé depuis le début, on a dit ok, il faut s'accompagner. Mais maintenant, avec le recul, on va prendre un petit peu de hauteur. Quelle conclusion tu peux tirer sur la réussite ou la rencontre de difficultés pénalisantes pour des entrepreneurs?
Je retiens, en tant qu'acteur aux côtés de toutes ces entreprises, c'est que, je vais prendre un exemple en fait concret, c'est que j'appelle un monsieur, une madame, chef d'entreprise, et au bout du combiné, il y a un sourire, il y a un contentement d'être là. Donc j'en ai déjà parlé, c'est mon ressenti, c'est crois qu'il faut prendre plaisir à être entrepreneur. Parce que si c'est pas le cas, la marche est trop haute, la tâche est trop ardue. Donc il faut qu'il y ait une visée derrière. Il y a plusieurs motivations. Je crois que ça vient de la tête. Hein. Mon président me dit souvent que c'est les 3 C, c'est le cœur, le cerveau, le courage. On les cumule, ces 3 facteurs. Et il faut que ça anime en fait chaque jour. Parce que s'il n'y a pas cette force, je pense qu'il faut aussi être capable de se dire est-ce que j'ai envie d'aller dans cette direction, de piloter une entreprise, d'avoir des responsabilités. Est-ce que ça me satisfait, ça m'épanouit? Est-ce que je peux accepter aussi des fois la difficulté? Il faut accepter la difficulté, elle est là, elle arrive, il y a l'imprévu. On en a parlé tout au long des émissions, donc c'est surtout l'état d'esprit et c'est surtout pas antinomique d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'être chef d'entreprise et de prendre des avis qui ne sont des avis que consultatifs. Ça qui est bien, hein, faut le rappeler, c'est que c'est à la fin l'entrepreneur qui décide toujours. Donc c'est surtout cette conclusion que j'ai, moi, c'est que j'ai des personnes qui sont bien là où elles sont, à la tête de leur entreprise. Et donc, en premier lieu, pour l'auditeur qui veut se lancer, c'est est-ce que je suis prêt à m'engager dans cette voie?
Oui, un, à m'engager dans cette voie. Deux, comme le disait Eric il y a 2 secondes, c'est prendre les choix, faire les choix au bon moment. Et ni trop tôt, ni trop tard. On a vu Michel tout à l'heure qui nous disait qu'il avait fait des choix un peu trop ambitieux, trop tôt peut-être. D'autres qui font des choix trop tard, ce qui fait qu'on n'a plus la capacité de retrouver ses leviers pour pouvoir agir sur son entreprise. Et comme le disait Annick également, c'est aimer ce qu'on fait surtout.
Oui, oui. Très important.
Si on aime ce qu'on fait, si on ne se travestit pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable d'aimer de faire, on réussit forcément.
Il faut conserver ses valeurs, comme disait Eric tout à l'heure.
Ben écoute, Loïc, merci beaucoup en tout cas pour cette série d'émissions sur Devenir Entrepreneur. Je pense qu'on attaquera une deuxième saison. On a plein de sujets encore à aborder.
Écoute, ça sera avec plaisir qu'on aborde ce champ qui amène beaucoup, beaucoup d'échanges d'expériences. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois on s'entoure. Au travers des 8 émissions, on a eu vraiment des intervenants très différents, avec des sensibilités et vraiment des spécificités. Et on n'a pas rencontré encore tout le champ de l'entrepreneuriat. Il reste encore effectivement des émissions à faire. Bruno, à très bientôt donc.
Merci madame, messieurs, merci. Puis bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore.